D'habitude, tu vois, quand on pose un diagnostic médical, on s'attend toujours à une précision quasi chirurgicale.
Ouais, c'est clair. On veut voir le problème direct.
Exactement. Genre une fracture du bras. La radiographie, elle te montre une ligne blanche en zigzag, super nette. Et le médecin, il pointe l'écran du doigt en te disant, voilà, le problème est là.
C'est binaire, quoi, cassé ou pas cassé.
C'est ça. Et c'est profondément rassurant parce que notre cerveau humain, il adore que les choses soient visibles, mesurables et surtout qu'elles rentrent dans des cases bien prévisibles.
C'est rassurant, oui. Mais en fait, quand on applique cette même exigence de clarté à notre monde actuel, on se heurte un mur.
Un mur massif, ouais.
Ou plutôt, on se rend compte que notre appareil de radiographie, il est complètement inadapté. Nos outils d'analyse sont calibrés pour un monde qui n'existe plus, en fait.
Et c'est vraiment le cœur du problème de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que comment expliquer, par exemple, que le fonds d'investissement le plus riche de la planète puisse perdre genre 68 milliards de dollars à cause d'événements géopolitiques qui étaient parfaitement prévisibles?
C'est un paradoxe fou.
Totalement fou. Ou encore comment nos propres capteurs économiques officiels peuvent nous dire que la confiance des ménages est en hausse, alors que ces mêmes ménages hurlent qu'ils n'arrivent plus à remplir leur caddie au supermarché.
Ouais, c'est des paradoxes absolus. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs de ce dossier fascinant qu'on a épluché pour notre audience aujourd'hui.
Absolument. C'est l'édition d'avril 2026 du magazine EcoBusiness, édité par l'ODJ Média. Dedans, on a des données brutes sur l'économie marocaine, des bilans financiers mondiaux et une analyse franchement terrifiante sur l'intelligence artificielle. C'est quand même rare de voir un magazine lier la philosophie de l'IA au prix du carburant dans un même élan.
Mais c'est parce que tout est lié, en fait. Ce qui relie tous ces éléments, c'est cette espèce de fracture monumentale entre la vitesse de la réalité et la lenteur de nos tableaux de bord.
Ouais.
D'un côté, on a ce monde exponentiel, propulsé par l'IA autonome et les chocs mondiaux, et de l'autre, on a nos lois, nos indices statistiques, nos réformes, qui avancent à un rythme purement linéaire.
Bon, décortiquons tout ça parce que le vertige commence direct quand on aborde le premier gros sujet de ce dossier, la vitesse de l'intelligence artificielle. Le décalage temporel, il est devenu enfin insoutenable.
Complètement. Le texte nous rappelle que l'autonomie des IA double grosso modo tous les 4 mois.
Tous les 4 mois. Face à ça, notre temps politique, il se compte toujours en années, en mandats de 4 ou 5 ans, ou en mois de débats parlementaires sans fin.
Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut vraiment faire le parallèle avec la fameuse loi de Moore.
Ah oui, la loi sur les puces informatiques, c'est ça.
C'est ça. Pendant des décennies, notre boussole, c'était cette loi qui disait que la puissance de calcul des puces doublait tous les 2 ans. Mais attention, c'était juste de la puissance brute.
Juste de la capacité à calculer plus vite, quoi.
Voilà. Ce qui double tous les 4 mois aujourd'hui, c'est pas la puissance, c'est la capacité d'agir, l'agentivité.
L'agentivité, ouais.
Une machine, aujourd'hui, elle se contente plus de te générer un texte ou une image. Elle devient un collaborateur autonome, capable d'enchaîner des tâches, de tester, de corriger pendant 1 heure, puis bientôt 10 heures, sans qu'un humain n'intervienne.
Pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, imaginons qu'avant, l'IA, c'était comme un stagiaire hyper rapide. Tu lui demandes une recette de cuisine, il te la sort, point barre.
Oui, il exécute bêtement.
Exactement. Aujourd'hui, on est face à un profil de cadre sup. La machine cherche la recette, elle va d'elle-même commander les ingrédients en ligne, elle ajuste les quantités parce qu'elle a vu dans la base de données qu'il n'y a plus de beurre en stock, et elle lance la cuisson.
Et en plus, elle corrige l'assaisonnement en simulant le goût. C'est exactement ça. Elle teste ses propres hypothèses. Et c'est là que le mécanisme s'emballe d'une manière totalement inédite. On a quitté l'époque où l'humain écrit le code et la machine l'exécute.
Ah oui, le passage sur la R&D dans le dossier est bluffant.
Oui, c'est la boucle d'auto-accélération. En gros, l'IA écrit du code pour la future génération d'IA. Elle lance des milliers de simulations par minute pour trouver ses propres failles. Elle s'optimise. La machine participe à son propre perfectionnement.
À une vitesse que notre cerveau ne peut physiquement plus suivre. Mais attends, ça me pose un vrai problème. C'est comme essayer de réglementer un train à grande vitesse avec le code de la route des calèches à chevaux.
C'est une excellente analogie.
Et nos décideurs politiques, les législateurs qui votent nos lois, ils ont Internet quand même. Comment ils font pour passer à côté de ce tsunami?
Parce qu'ils sont victimes d'une illusion d'optique massive. La perception collective, elle est basée sur les versions grand public, les versions gratuites qu'on a sur nos téléphones.
Les chatbots un peu bridés, quoi.
Voilà. Le politicien y teste un chatbot, il voit que l'IA fait une erreur sur une date historique ou qu'elle refuse de répondre à un truc sensible, et paf, il se dit « Ok, la bête est sous contrôle, elle est un peu stupide, sans un humain derrière. »
Donc si je comprends bien, ils sont en train de légiférer sur un fantôme.
Absolument.
C'est fou.
Ils essayent de mettre des barrières sur une version affaiblie qui date d'il y a 6 mois, pendant que dans les labos, la vraie technologie, elle a déjà muté 2 fois entre-temps. Et c'est ça qui redéfinit complètement la notion de souveraineté. Historiquement, être souverain, c'était avoir une armée, une monnaie. Après, c'était posséder des data centers. Mais aujourd'hui, intelligence artificielle qui est continue et itérative. La souveraineté, c'est contrôler ces systèmes capables d'agir, sinon on est juste déclassé.
Mais réfléchissons une seconde à cette histoire de vitesse. On vient de dire que nos lois sont trop lentes. Mais par contre, nos marchés financiers, eux, ils sont gérés par des superordinateurs, par des algorithmes qui tradent à la nanoseconde, non?
Oui, tout est algorithmique en finance aujourd'hui.
Du coup, on pourrait se dire que la finance, au moins, elle est équipée pour gérer ce monde exponentiel. Eh ben non. Quand on regarde les données macroéconomiques du dossier, notre pauvre appareil de radiographie l'explose encore une fois.
Ah ça, le cas du fonds souverain norvégien.
Mais parlons-en. Les résultats du premier trimestre 2026 de ce fonds norvégien sont dingues.
C'est une vraie douche froide. Ce fonds, qui gère la rente pétrolière de la Norvège, il pèse près de 20 000 milliards de couronnes. Et pourtant, il a perdu 68,4 milliards de dollars en un seul trimestre. Ça fait un rendement de moins 1,9%.
Mais comment c'est humainement ou même algorithmiquement possible? Un fonds de cette taille, avec les meilleurs analystes du monde, il est censé lisser les risques, non? Comment ils peuvent se faire surprendre par la géopolitique comme de simples boursicoteurs du dimanche?
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est la réalité physique qui vient fracasser les modèles parfaits. Le fonds, il était massivement investi dans la big tech américaine.
Qui était vue comme magique, invulnérable.
Exactement. Sauf qu'un algorithme, ça se nourrit de données du passé pour prédire l'avenir. Ça ne sait pas anticiper l'irrationalité humaine ou une crise géopolitique au Moyen-Orient. Les tensions là-bas ont créé une secousse qui a fait trembler les marchés boursiers et la technologie n'a pas résisté.
Et le dossier mentionne aussi un effet de mécanique monétaire pure, l'appréciation de la couronne norvégienne.
Ouais, c'est l'effet de change. Quand la monnaie locale se renforce, la valeur de tes investissements à l'étranger, une fois convertie dans tes livres de compte, bah, elle baisse mathématiquement. Donc, entre la guerre et le taux de change, même l'IA financière s'effondre.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette illusion comptable, elle ne touche pas que les milliardaires en Norvège. Elle frappe notre quotidien le plus basique. Redescendons à l'échelle microéconomique. Au Maroc, avec les données du Haut Commissariat au Plan.
Chiffre du premier trimestre 2026, l'indice de confiance des ménages grimpe. Mathématiquement, il passe à 64,4 points contre 46,6 un an avant. Le thermomètre dit que tout va bien, le pessimisme recule.
Sauf que
tu tournes la page et tu vois que 75% des ménages estiment que leur niveau de vie s'est dégradé. Les prix de l'alimentation, du carburant, ils sont écrasants. Près de 60% des gens arrivent tout juste à couvrir leurs dépenses et presque personne n'arrive à épargner.
C'est la définition même d'un indicateur cassé.
Mais ouais, cet indice de confiance, c'est comme le voyant vert sur le tableau de bord d'une voiture, sauf que le moteur est en train de fumer noir. Le pilote croit que l'avion vole parfaitement alors que les passagers voient le sol se rapprocher à toute vitesse.
Et pourquoi on a ce décalage? C'est parce qu'un indice synthétique, ça ne mesure pas l'épaisseur de ton portefeuille à la seconde T. Ça mélange des perceptions et des espoirs. Les gens se disent peut-être que le chômage ne va pas empirer, donc l'indice monte.
Ah d'accord, une petite lueur d'espoir statistique.
Voilà, sauf qu'au supermarché, dans le monde réel, l'inflation est cumulative. Même si les prix augmentent moins vite, ils restent beaucoup trop hauts. Donc l'indice sourit, mais le frigo reste vide. La crise n'est plus une théorie, c'est une réalité comptable pour les ménages.
Et donc face à ce monde où la finance virtuelle se plante et où les indices statistiques nous mentent, comment on fait pour s'adapter concrètement?
Eh bien, on revient au monde physique, aux infrastructures et aux lois.
La troisième partie de notre exploration, ouais. Quand tout devient virtuel et instable, on s'accroche à ce qui est lourd. C'est fascinant de lire les détails sur l'inspection de ce câble électrique sous-marin entre le Maroc et l'Espagne.
Ah oui, l'interconnexion dans le détroit de Gibraltar, sous très haute surveillance.
Mais pourquoi autant de l'attention sur un simple câble?
Parce que ce n'est pas qu'un tuyau, c'est une artère géopolitique vitale. Le Maroc exporte massivement son électricité. Surtout solaire et éolienne. Donc fiabiliser ce câble, c'est une question de survie stratégique.
C'est fou le contraste. On parlait d'IA qui code toute seule dans le cloud il y a 5 minutes, et là on réalise que la vraie souveraineté, elle tient à des robots sous-marins qui vérifient un gros câble en cuivre au fond de la Méditerranée.
La souveraineté, c'est l'exécution concrète. D'ailleurs, ils explorent d'autres projets, comme Cantaramed entre le Maroc et la France, pour diversifier les routes.
Pour ne pas dépendre d'un seul intermédiaire, c'est logique. Mais les infrastructures physiques, ça suffit pas. Il faut aussi adapter les institutions qui les gèrent. Et là, le dossier mentionne la réforme de l'ONHIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines.
Oui, sa transformation en société anonyme, une SA. Le but officiel, c'est d'améliorer la gouvernance et d'attirer des investissements massifs.
Et cela soulève une question importante, que le texte aborde sans filtre. Changer le panneau sur la porte pour écrire SA, ça ne change pas l'ADN de l'entreprise du jour au lendemain.
Absolument pas. Si les pratiques restent les mêmes, si la lenteur bureaucratique persiste, le statut juridique ne sert à rien. Les investisseurs internationaux s'en fichent du nom sur la porte. Ils veulent de la réactivité.
Créer une SA, c'est un début. Mais la vraie victoire, c'est de durer, non? C'est de changer la culture. Et cette urgence de s'adapter, elle touche tout le monde, même ceux qui produisent l'information. L'ODG Média lui-même a dû revoir sa copie.
Oui, le monde médiatique n'échappe pas à cette accélération. Les chiffres du premier trimestre 2026 sont super parlants. Instagram a explosé avec plus 53,4% de vues pour eux.
Et en même temps, un fléchissement sur TikTok et YouTube, c'est ultra volatile.
L'attention du public bouge tellement vite. C'est pour ça qu'ils ont lancé Presse Plus, leur kiosque 100% digital. Ils ont obligé d'avoir une infrastructure agile pour survivre.
L'adaptation en temps réel, quoi. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous au final? Si on fait le bilan, on a l'IA qui échappe à nos lois politiques, la finance norvégienne qui se fait avoir par la géopolitique, des indices qui disent aux Marocains qu'ils sont confiants alors qu'ils sont ruinés, et des câbles sous-marins qui deviennent nos vrais boucliers.
Ça signifie que nos anciennes grilles de lecture sont mortes. On est dans une ère de recomposition totale.
Et l'outil de mesure linéaire, comme on disait, il est définitivement cassé. D'ailleurs, pour conclure, j'aimerais soumettre une pensée un peu provocatrice à ceux qui nous écoutent. Une réflexion inédite basée sur l'éditorial qu'on vient de décortiquer.
Je t'écoute.
L'édito affirmait que la souveraineté se joue désormais entre l'intelligence biologique et l'IA. Imaginons que d'ici peu, cette fameuse IA, qui double sa puissance d'action tous les 4 mois, devienne capable d'optimiser parfaitement la politique énergétique d'un pays.
C'est-à-dire
qu'elle décide à la seconde près quand exporter de l'électricité via le câble Maroc-Espagne en fonction de la météo européenne, des taux de change, et qu'en plus, elle gère la structuration financière de l'ONHM bien mieux qu'un conseil d'administration.
C'est un scénario très probable.
Eh bien, la question à méditer, c'est à quel moment précis nos responsables politiques réaliseront-ils qu'ils ne font plus que signer des décisions déjà prises par un algorithme?
Oh, waouh, ouais.
La souveraineté n'a-t-elle pas déjà discrètement changé de camp, sans même qu'on ait besoin de voter une seule loi?
C'est vertigineux. Les politiciens deviendraient de simples exécutants d'une rationalité mathématique supérieure.
C'est ça. Le tableau de bord sera peut-être réparé, mais ce n'est plus nous qui piloterons la voiture. Enfin bref, merci infiniment à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette plongée au cœur des sources avec nous aujourd'hui.
Oui, merci à vous et gardez l'œil ouvert.
C'est ça, continuez de remettre en question les chiffres officiels et les certitudes qu'on vous vend. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble un nouveau dossier. À la prochaine!